Alors, mon itinéraire, c'est j'ai fait mon doctorat à Sciences Po à Paris. Avant ça, à l'Université d'Ottawa, en sociologie, je me suis intéressé beaucoup à l'analyse des politiques, au fonctionnement des organisations, à l'échelle des communautés, l'implication des communautés, particulièrement autour des nouvelles politiques de l'environnement. Et c'est un peu dans ce contexte-là qu'on est venu me solliciter. Et avec mon équipe, on s'est engagé depuis maintenant près de 8 ans dans des projets qui tournent autour des questions d'adaptation au changement climatique. En fait, on se retrouve aujourd'hui avec deux projets assez importants, un sur la ville, l'autre sur la gestion par bassin versant. Un projet en émergence dans le bassin du Paraguay et une suite du projet dont je vais vous présenter quelques éléments. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a présentement une ruée, une offre, des appels à projets qui surprend un peu tout le monde. En fait, qui sont imputables en partie aux échecs, impasses comme on l'a vu à Copenhague sur un accord contraignant. Et à côté de ça, il y a le positionnement des pays du Sud, en particulier les Africains. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, qui, au nom d'une justice environnementale, disons une justice climatique, appellent à l'aide, estimant qu'ils ne sont pas nécessairement à l'origine des bouleversements comme tels. Et il s'engage donc dans plusieurs pays du Nord des nouvelles stratégies de coopération qui incluent de plus en plus la question spécifique de l'adaptation. Or, ces appels à projets amènent plusieurs équipes qui n'ont jamais pas nécessairement dans le passé travaillé sur ces questions spécifiques, mais qui ont des choses à apporter, très certainement, mais qui se retrouvent. Peut-être certains d'eux parmi eux dans des contextes d'interdisciplinarité qui vont expérimenter avec des résultats plus qu'incertains. Et donc, les préoccupations que j'exprime sont entre les lignes de la présentation qui va défiler sous vos yeux. Alors, à savoir quel genre de mode de raisonnement, comment se pratique la recherche, à quoi sert la recherche en adaptation, quel est le lien entre sciences du climat, sciences naturelles et sciences sociales, sont des questions tout à fait importantes. Il y a différentes façons, différentes expérimentations, et peut-être qu'on pourra avoir des discussions autour de ce qui est en train de se passer aux États-Unis ou un peu ailleurs. Peut-être que je vais glisser de temps en temps une phrase en anglais pour nos amis qui viennent d'Arizona. J'ai cru comprendre qu'ils ne pouvaient pas lire mes lèvres là. Donc, eventually I just summarize some of my exposé, but very briefly, so I won't drag on. Alors, peut-être qu'on peut revenir au. Plusieurs d'entre vous sont familiers avec les débats, les discussions sur l'adaptation, qui ne se présentent pas nécessairement de la même manière dans un univers disciplinaire par rapport à un autre. Hein. Le travail qui vient de paraître dans NSS de Guillaume Simonet tourne autour de cette question. Mais il y a quand même certains consensus autour de la question qui apparaît ici. Donc, un ajustement à l'intérieur d'un système naturel ou humain en réponse à un stimulus climatique ou à ses effets actuels ou envisagés, incluant la variabilité et les extrêmes du climat. Et puis, il y a des variantes. Il y a des variantes qui précisent, s'agit-il d'une réponse spontanée ou planifiée, individuelle, privée ou publique. Et puis, peut-il y avoir, dans nos bonnes intentions, malgré tout, des effets pervers, c'est-à-dire des actions de maladaptation? Voilà un peu le débat qui tourne autour de la définition, mais on s'entend globalement sur à peu près la première qui est assez englobante. Et ensuite, la suivante, qui pour nous, plus particulièrement en sciences sociales, nous intéresse et est beaucoup débattue, c'est la question de la vulnérabilité, que l'on a fait rapidement référence tout à l'heure. Donc la vulnérabilité renvoie à la capacité ou à l'incapacité de faire face aux effets néfastes des changements climatiques. La vulnérabilité d'un système est une fonction de la nature, de l'ampleur et du rythme du changement climatique auquel il est exposé, de sa sensibilité, de ses capacités adaptatives. Voilà, donc on s'entend, c'est des termes qui vont revenir tout au long de la journée, c'est pas inutile de les revoir. Alors, ça, c'est peut-être un peu trop schématique, mais ça caractérise assez bien la boîte dans laquelle se retrouve l'une ou l'autre de nos présentations d'aujourd'hui, le type de recherche qui s'engage aujourd'hui. Les deux présentations qui précèdent se retrouvent ici, entre modèle climatique, appréciation des scénarios et éventuellement un passage vers la question de la sensibilité, donc des impacts. Donc on retrouve ici, historiquement, dans les fins des années 70, au début du GIEC, des travaux autour du bouleversement, du réchauffement. Ensuite arrivent les sciences naturelles qui commencent à examiner de façon un peu plus spécifique, mais aussi commencent à s'intéresser des gens comme les économistes ou ceux, les anthropologues, qui commencent à s'intéresser aux vulnérabilités, mais vraiment dans un esprit d'analyse de selon tel et tel type de scénario d'augmentation des températures ou de l'augmentation des fréquences des événements extrêmes, quel genre d'impact et donc comment on va y faire face. Après arrivent, dans la séquence, hein, en chronologie, des sciences sociales qui commencent à poser la question de l'effet plus ou moins négatif des impacts selon les caractéristiques de la communauté, des populations, de la société qui subit ces impacts. Et donc, qui pose le problème en termes de capacité de réponse, capital social, les réseaux d'entraide, des éléments de coopération dans une communauté ou une société donnée, les ressources humaines, les ressources immatérielles, les capacités institutionnelles, et comment se gèrent les ressources naturelles pour éventuellement avoir une sorte d'appréciation des vulnérabilités. Et donc, l'adaptation est perçue dans un cas comme un petit peu plus proche des impacts lorsqu'on emprunte cette filière. Et on voit là des marqueurs sur le plan disciplinaire, sur le plan des années, sur le plan de l'influence très importante sur l'organisation, le fonctionnement du GIEC. Et puis, plus récemment, cette autre filière qui se crée et qui, évidemment, attaque la question de l'adaptation fort différemment. Le grand défi consiste à se retrouver ici, donc à faire se croiser les regards, à partager des observations, échanger nos modes de raisonnement pour mieux comprendre les bases sur lesquelles on construit nos analyses. Et donc l'immense défi se présente aux chercheurs, mais je dirais aux sociétés contemporaines, c'est pour une fois se dire que l'interdisciplinarité, c'est pas simplement un bon vœu, c'est une nécessité. Et il n'y a pas beaucoup d'expériences dans l'histoire de l'humanité où les questions se posent aussi directement. Certains diront peut-être un peu autour des grands enjeux liés à la biodiversité, à la diversité biologique, mais là, il y a définitivement, et on le voit au Canada, les appels à projets suscitent des collaborations, des gens qui viennent de facultés fort différentes, qui ne se sont jamais rencontrés, mais pour avoir plus de chance, tentent de trouver des gens qui représentent différents types de regards. Et donc, on va tenter de brasser ces gens-là ensemble, espérant que va jaillir éventuellement une approche qui est socialement, écologiquement défendable, qui va venir réduire les vulnérabilités et, dans un sens, peut-être atténuer l'injustice climatique auquel on fait très, très référence de ce temps-ci dans les débats autour des grands accords internationaux. On présente aussi depuis 2001, j'ai pas mis la date, oui je l'ai mis, McCarthy et Tal, qui était un zoologue qui dirigeait le rapport 2 qui tournait autour des questions d'adaptation dans le GIEC. Donc on voit quelqu'un issu des sciences naturelles et qui présentait l'adaptation comme un processus. Alors il parle de knowledge, toutes les connaissances nécessaires qui vont permettre éventuellement d'évaluer les risques. On ajoute la question d'évaluation des vulnérabilités et là qui débouche sur que faire. Donc, comment, muni de ces connaissances, de ces scénarios, on va éventuellement inclure dans les politiques en place. On n'imagine pas, dans un avenir rapproché, voir se créer des départements, ça c'est l'expression anglaise, mais des ministères de l'adaptation ou des services de l'adaptation. On va voir au sein des services d'adaptation des ministères de l'environnement, plutôt, se créer des cellules d'ailleurs qui commencent à poindre ici et là, au Canada en particulier, ou des grands consortiums comme on a créé au Canada. Peut-être que M. Savard pourra parler très rapidement d'Ouranos, qui est une des solutions. Et après, évidemment, qu'est-ce que donnent ces politiques-là mises en œuvre? Donc, de poser un jugement, est-ce que ça réduit les vulnérabilités? Ça attaque les bons risques? Est-ce que c'est de la maladaptation pour éventuellement donc agir et tenter d'intervenir? Et c'est beaucoup là que les argents de la coopération internationale se concentrent pour le moment. Mais on voit très bien que pour que ça ait un sens, une portée, on présuppose que la roue a tourné un peu auparavant. Alors étrangement, on ne se soucie pas toujours dans l'allocation des fonds, dans le choix des projets. Nous, on est un peu privilégiés parce qu'on était peut-être dans le jeu un peu avant les autres, mais en fait, on imagine très bien qu'il va y avoir énormément d'improvisation, de bricolage dans des zones, dans des situations qui commencent déjà à être dramatiques. Et donc, c'est un petit peu ces questions-là qui devraient nous animer aujourd'hui. Donc, comment construire les dialogues interdisciplinaires et éventuellement, comment faire le passage de la science à l'action à travers une intervention dans l'élaboration, la mise en œuvre des politiques publiques. Donc, moi, la petite présentation s'inspire d'un rapport de recherche qui est une première version, mais quand même, qui est disponible éventuellement pour ceux que ça intéresserait en PDF. Des membres de mon équipe, que des femmes, que des jeunes femmes. J'ai remarqué qu'il y avait une surreprésentation. Surreprésentation, c'est pas négatif, mais il y a plus de femmes que d'hommes dans la salle. Hein? Et c'est la même chose en sciences d'environnement dans mon institut. En fait, très souvent, 3-1. Alors, donc, avec cette jeune équipe, plusieurs sont allés séjourner en Afrique, mais on a beaucoup aussi formé des collègues sur le terrain à la conduite de l'entretien. Et ils m'ont aidé à dépouiller. Je vous verrai un petit peu le genre de travail. Donc, c'est un travail qui s'inscrit dans l'appui canadien aux stratégies d'adaptation au Sahel, qu'on a intitulé, nous, « Vulnérabilité des populations, adaptation, variabilité du climat, acteurs, institutions et dynamiques locales ». Donc, les objectifs généraux du projet, initialement, c'est un appel d'agrimet, un genre de regroupement de chercheurs issus du CILS, Comité interétat de la lutte contre la sécheresse, qui fait un appel au Canada pour avoir de l'aide autour de certaines questions qui concerneraient les bouleversements du climat. Le réflexe de l'Agence canadienne de développement international, c'est de se tourner vers les gens de la météo à Environnement Canada et leur confie le mandat de venir en aide à ces équipes de chercheurs qui se trouvent au Sahel, plus précisément à Niamey. Alors voilà des météos très bien motivés, voulant être utiles, qui commencent à dessiner un projet qui prend la forme donner de meilleurs instruments, des observatoires, des stations météo un peu partout au Sahel, donc utilise une partie de l'argent pour évidemment ce support-là, ce qui est tout à fait défendable, mais qui décide avec quelques personnes, quelques interlocuteurs qui étaient bouche bée, mais en fait décident que la meilleure façon pour le Canada d'aider les pays au Sahel, c'est d'améliorer les modèles canadiens au niveau du climat. Alors, de dire que peut-être la meilleure adaptation commence par une meilleure connaissance de ce qui risque de se passer dans l'avenir. Parce que c'est ce qu'ils savent faire de mieux, et en fait, on ne peut pas, évidemment, les critiquer pour ça. Sauf que très rapidement, à la fois les demandeurs sur place, mais aussi l'Agence canadienne, a décidé qu'il fallait avoir une connexion quelconque avec des terrains. Donc, on a identifié 5 projets pilotes dans 3 pays, le Burkina, le Mali et le Niger. Et donc, de tenter de voir comment on peut passer d'une lecture scénario, impact, à une lecture plus proche de la vulnérabilité. Et là, Il y a eu toutes sortes d'échanges, d'apprentissages de part et d'autre, en développant le respect mutuel, mais en même temps, beaucoup d'incompréhension à travers ça. Et vous allez voir quelques exemples, je vous en citerai. Donc, le rôle de mon équipe était d'appuyer les démarches visant à mettre en lumière les dimensions sociales et organisationnelles de l'adaptation, participer à la réflexion sur les stratégies d'adaptation avec les intervenants locaux, nationaux, régionaux. Donc, variations climatiques au Sahel se présentaient pour nous comme événements météorologiques extrêmes, sécheresses, pluies diluviennes, inondations, vent, mauvaise répartition des précipitations, tendance à la baisse des moyennes. Donc, dans un contexte, et Sylvie l'a signalé tout à l'heure, d'incertitude. Moi qui arrivais d'ailleurs, j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi certains disaient plus d'humidité alors que d'autres disaient plus de sécheresse. Alors, dans ce contexte-là, bien sûr, le sociologue prend un peu de recul et dit, bon, finalement, on va travailler à l'échelle du paysan, à l'échelle de l'acteur, pour voir comment il se représente les enjeux et les risques, et on tentera de faire la connexion par la suite. Donc, transformation en même temps que ces incertitudes du climat et la multiplication des événements extrêmes, inondations très graves, meurtrières, au Burkina, il y a quelques années, entre autres, et ça accompagné de transformation de l'environnement, réduction du couvert végétal, explosion démographique, on y reviendra. Donc voilà un petit peu le contexte, comme en nous, arrivant des sciences sociales, on le comprenait au départ. Donc, on revient rapidement, adaptation, réaction spontanée ou planifiée pour modérer les dommages des changements. Exemple d'adaptation au niveau local, si on prend le cas que je vais exposer un petit peu plus précisément, de Mopti au Mali, donc dans le delta central du Niger, irrigation, semences adaptées, cycle court, cycle long, vente d'animaux, donc une différente gestion de son capital, coopération, donc réserve de groupe, travaux communs, donc il y a déjà... par rapport à l'enchaînement des sécheresses depuis les années 60, certains nombres de nouveaux types de comportements, d'organisations, d'interactions entre les acteurs locaux qui reflètent un petit peu la transformation de leur milieu et les pressions exercées évidemment par l'explosion démographique qui accompagne aussi cette autre menace, la transformation du climat. Donc, vulnérabilité dans ce contexte, degré selon lequel un système était susceptible d'être exposé au risque de ne pas pouvoir faire face aux effets des variations. Donc, la vulnérabilité est liée aux institutions, la capacité des institutions de mettre en place des systèmes, par exemple, de sécurité civile, on pourrait voir ça comme ça, mais aussi au niveau du ministère de l'Agriculture et autres, à l'économie, à l'état des infrastructures, au capital social. En connaissance, bien sûr. Donc, regardons très rapidement une zone ici, qu'on appelle le delta central du Niger, le Mali. C'est une région où on retrouve à peu près 2 250 000 habitants en 2009. Bon, plusieurs ethnies, plusieurs activités économiques liées aussi aux ethnies. Mais ce qui est remarquable, c'est que de 1989 à 2009, il y a une augmentation de 38% de la population. Donc, on a là et un propos qu'on retrouve aussi dans le GIEC, c'est que ce phénomène en parallèle à la transformation du milieu imputable aux transformations du climat, à la transformation de l'environnement, évidemment, est un mélange assez explosif. Mais au GIEC, on admet même que dans le futur, les impacts de l'explosion démographique dans certaines régions du monde risquent d'être plus conséquents que la transformation à moyen terme du climat. Donc, pour l'observateur, c'est quelque chose d'inséparable. Si on va sur le terrain, évidemment, on s'interroge sur les pratiques des agriculteurs, par exemple, les pratiques des institutions, mais on ne peut pas faire abstraction du des transformations qui sont imputables à ce phénomène démographique. Delta intérieur, donc source de vie, alimente et supporte la population, faune, flore. Au niveau de la pêche, on dit entre 45 et 100 000 tonnes de poissons, selon les crues. En fait, année en année, large zone humide et inondable. Donc, voilà un peu le propos sur la population et son augmentation depuis 1998, ce qui est spectaculaire, mais en même temps dramatique. Problématique locale, dépendance directe aux ressources naturelles, agriculture pluviale principalement, sensibilité à tout changement dans l'environnement, activité dépendent des précipitations du début du fleuve, donc économie de subsistance, faible taux de scolarisation, donc la subsistance et la survie occupent tout son temps. Hein. Problématique locale, variabilité pluviométrique, insécurité climatique, il se présente sous forme, et ça c'est les collègues qui viennent plutôt de météo qui le démontrent, sécheresse répétée, ensuite ensablement du fleuve et fluctuation des niveaux d'eau, dégradation de la qualité de l'eau, due à l'augmentation évidemment de la population, mauvais évidemment traitement des eaux usées, diminution et dégradation des ressources et éventuellement exacerbation par la surexploitation des petites parcelles. Problématique, donc précarité du matériel, c'est ce que moi j'imaginais pas, mais les gens passent leur temps à nous dire qu'ils n'ont pas d'outils pour travailler la terre, ou ces outils-là sont très précaires. La pression démographique, la migration, donc plusieurs usagers posent des problèmes de conflit. Éventuellement, les jeunes, ce qu'on appelle les bras utiles, très souvent quittent et là engagent, on pourrait y revenir, tout un flux de migration vers la ville et puis éventuellement vers des tentatives sur l'Europe. Hein. C'est pas nécessairement un modèle figé comme ça, mais c'est beaucoup ça aussi. Variété d'usagers, donc différentes utilisations du territoire, ce qui peut poser problème dans un territoire changeant. Changeant à cause de la démographie, changeant à cause du couvert végétal en réduction. 4 minutes, je fais ça, c'est mon introduction. Je vais aller plus vite. Là, c'est pour expliquer un peu les. On a fait 550 entretiens sur l'ensemble des 5 sites. Et pour le Mali, 127 entretiens qu'on a évidemment mis sur support informatique, qu'on a traité avec des logiciels d'analyse qualitative, dont NVivo, qu'on a transformé éventuellement en base de données SPSS pour tirer quelques distributions de fréquences. On n'a pas fait des analyses très poussées là-dessus, mais ça permet quand même d'avoir avec ce matériel-là une immense banque, assez unique au monde, je pense, où on a, comme ça, à l'aide de traducteurs aussi, donc il faut faire des analyses de type analyse de contenu thématique avec beaucoup de prudence, parce que évidemment, il y a des distorsions au passage, mais en fait, on fait ce qu'on peut aussi, et on fait ce qu'on peut même au niveau de l'échantillonnage, on se retrouve avec 60% de nos répondants qui ont entre 36 et 60 ans, et 66 ans je crois, principalement les hommes qui sont dans le processus décisionnel qui caractérise un peu l'organisation sociale, et nous avons réussi à trouver ces femmes. Les anthropologues et ceux qui sont un peu familiers avec la région comprendront un petit peu et nous pourrons l'expliquer, c'est pas un jugement qu'on pose. Les sociologues utilisent parfois l'expression d'échantillon réaliste plutôt qu'un échantillon parfait où on retrouve toutes les caractéristiques de la population. C'est-à-dire, voilà, on arrive à la conclusion que ce sont eux, parce que très souvent choisis par ceux qui sont au pouvoir, qui on va interviewer, dans quelles circonstances. Donc ceux qui font partie, ni plus ni moins, du pouvoir, c'est ceux qu'on nous expose. Dans un sens, ça fait notre affaire. Dans un autre sens, évidemment, il y a évidemment une réalité fort importante qui nous échappe. Que dans d'autres stratégies de recherche, peut-être qu'on pourrait tenter de compenser. Donc, grosso modo, des pêcheurs, des agriculteurs, des éleveurs, bon, ces proportions-là sont peut-être mauvaises, parce que les éleveurs, leur caractéristique, c'est qu'ils se déplacent, n'est-ce pas? Et aussi les représentations en termes de groupes. Taux de scolarisation, ça donne une idée, 42% non scolarisés, donc 18% scolarisés, mais bon, là encore avec des appréciations avec beaucoup de marge. Quelques résultats de l'enquête. Alors, conditions négatives, on leur dit, bon, qu'est-ce qui se passe autour de vous lorsqu'il y a des sécheresses? Qu'est-ce qui nous arrive en fait, hein? Alors les gens citent évidemment les sécheresses, la faible productivité, l'infestation, les épidémies, la pauvreté des sols, l'érosion, évidemment insuffisance des précipitations, précipitations matérielles. Et c'est là que en fait j'ai eu des échanges assez fascinants avec mes collègues météo. Qui eux parlent en termes de moyenne mensuelle. Donc pour eux, la pluie, c'est une quantité qui s'inscrit dans un modèle qui est appréciable. Mais lorsqu'on prend notre paire de lunettes d'ethnologue, d'anthropologue, de sociologue et on va sur le terrain, on se rend compte que la pluie, c'est plutôt une qualité et non pas une quantité. Certes, il y a un volume de pluie qui est nécessaire, mais à quel jour elle tombe, par rapport aux semences, dans quel ordre, dans quelle séquence, si la pluie mensuelle tombe toute la même journée, il y a un problème. Et donc, on voit une traduction à l'échelle de nos interlocuteurs, des appréciations que nos collègues météo ont, la réalité, qui, décomposée à leur échelle, se retrouve beaucoup plus chaotique, erratique, et c'est de ça qu'ils parlent, finalement. Donc, aussi, la question de l'insuffisance des précipitations, du matériel, on l'a évoqué, et aussi des conflits d'usage, et la multiplication de ces conflits d'usage-là, donc de nouvelles utilisations du territoire qui vient aussi avec l'explosion démographique. Donc, pauvreté, problème entraîné par la variabilité du climat, et c'est spontanément que les gens disent, ben, c'est la pauvreté, la souffrance, la maladie, c'est ce qui vient spontanément. On est dans une situation évidemment difficile, on devine insécurité alimentaire et en eau, problème au plan biophysique, sécheresse, on l'a évoqué, déplacement des populations, 43%, extrêmement important. Donc voilà, les bouleversements, la désorganisation sociale, les jeunes qui quittent, les bras utiles sont de moins en moins là, donc aggravent la situation ou la capacité de réponse, et donc aggravent la situation de vulnérabilité, comprise dans la définition qu'on vous a donnée tout à l'heure. Et donc, baisse des rendements aussi est évoquée. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc, solutions individuelles apportées, nouvelles techniques d'aménagement, donc c'est des éléments d'adaptation, quand on disait que ça pouvait être des réponses individuelles, ben, il y en a là. Aménagement concerne plus les pouvoirs publics, mais en fait, se fait surtout par les individus. On développe des stratégies de stockage, des modèles de coopération. J'ai des surplus, j'apprends à les gérer pour les mauvaises années, mais aussi à distribuer autour de moi en retour de telle et telle réduction de risque auquel moi je fais face. Diversification des activités, hein? Les agriculteurs commencent à faire de l'élevage, les éleveurs commencent à faire un peu d'agriculture, donc on est en train là aussi de voir les activités économiques se transformer au gré des pressions qu'ils exercent sur cette population-là. Enfin, vulnérabilité accrue dans le delta, donc des conflits d'usage. Qu'est-ce qui est un peu dramatique, c'est que les conflits d'usage ne sont pas pris en charge par des institutions. En fait, dans le processus de décentralisation, on voit... J'ai combien de minutes, là? Je vais aller encore. Ça pour dire que, rapidement, pour conclure sur cette dimension-là, c'est que les institutions en place, quand on parle de vulnérabilité, qu'on associe ça aux institutions, voilà, les conflits d'usage qui se multiplient à cause de l'explosion démographique et aussi à cause de la réduction, par exemple, du couvert végétal ou de la caractère erratique des crues d'année en année, ces conflits d'usage-là ne peuvent pas être pris en charge par les institutions qui fonctionnent sur un modèle qui a rien à voir avec la situation de crise dans laquelle on se retrouve. Et donc, les conflits sont gérés en dehors des institutions, ce qui veut dire, évidemment, des tensions, des conflits. Évidemment, ça peut évidemment prendre des tournures dramatiques parfois. Moi, j'avais l'impression d'être dans un contexte extrêmement... avec beaucoup, beaucoup de tensions et que je ne voyais pas avec le recul, même si je ne me considère pas un expert de cette région-là du monde, en reste pas qu'on voit des signes assez frappants de cette tension-là, même dans les organisations qui se veulent, les organisations qui regroupent les uns et les autres pour favoriser la coopération, on voit énormément de blocages et de difficultés. Là, rapidement, l'aperçu m'obtient. Donc, les effets de la variation climatique, on les voit. Les stratégies spontanées pour répondre, migration, nouvelles techniques, réserves, entraide, diversification des activités, mais aussi la religion. Et donc, avec un peu de recul, qu'est-ce qu'on dit? Ben, en fait, c'est toute la réflexion qui se propage, particulièrement dans les milieux qui s'intéressent à l'élaboration de stratégies d'adaptation. C'est l'idée du mainstreaming, c'est-à-dire comment introduire la préoccupation ou inclure la préoccupation de la vulnérabilité dans les politiques existantes. Alors, comment faire percoler cette préoccupation d'adaptation, voire de réduction de vulnérabilité dans la politique agricole, la politique de l'éducation, politique d'aménagement, gestion des villes, ainsi de suite. Et donc, évidemment, c'est une dimension incontournable, on le voit très bien. L'autre, c'est comment introduire dans les modes de raisonnement des repères, des nouvelles façons de penser, et donc d'avoir une approche un petit peu plus holistique, qui ne se réduit pas à l'écosystème, ni au système de la communauté, mais qui tente déjà d'introduire l'idée d'éco-sociosystème, qui est déjà une base, un terrain sur lequel on peut construire des dialogues, au moins, et sur lequel on va pouvoir éventuellement construire des solutions qui sont adaptées, disons-le. Donc, les raisons, bon, c'est parce que les problèmes sont d'une telle gravité, exacerbation par la variation climatique, des bouleversements sociaux-environnementaux déjà en cours, donc des stratégies multidimensionnelles et holistiques, plus efficaces que les stratégies sectorielles, et donc d'aller aussi pour répondre un peu aux incertitudes auxquelles on a fait référence tout à l'heure dans la présentation plus proche des sciences du climat, c'est que compte tenu de ces incertitudes et compte tenu de la gravité de la situation, engageons les autorités compétentes et aussi les agents de coopération dans des actions qu'on pourrait appeler mesures sans regret, c'est-à-dire améliorer la gestion de l'eau, améliorer la productivité, améliorer le système de santé, réduire la pauvreté, bref, des enjeux qui sont déjà en place, mais dans lesquels on va faire percoler peut-être de façon plus explicite la question, puisque les pays du Nord s'engagent dans cette voie-là, les questions d'adaptation au changement climatique. Mais évidemment, puisqu'on n'a pas d'idée très très précise sur qu'est-ce qui est en train de se produire, à quel rythme et avec quelle ampleur, ben, engageons-nous dans une aide qui va aller dans le sens d'une aide qui est socialement acceptable, défendable, mais aussi écologiquement défendable. Donc, parfois, un équipement, ça peut être un pont, mais ça peut être aussi une école, un nouveau programme, ça peut être aussi un mécanisme de gestion par bassin versant, ça peut être, dans la ville, un nouveau système d'implication des communautés, qui sont des pratiques qui sont déjà mises en place depuis 20-30 ans autour de la suite de Rio, mais donc on ne va pas réinventer la roue, on va tenter de voir comment nos préoccupations par rapport à la vulnérabilité des populations peuvent se greffer et interagir avec ces dynamiques qui sont déjà en place, bien portées très souvent par des ONG très compétentes. Donc, renforcement du cadre institutionnel, développement du capital social, collaboration interagence, développement de la recherche sur les réalités sahéliennes par des sahéliens et aussi, évidemment, toute la problématique de l'approche participative compte tenu de la faiblesse du cadre institutionnel en place. Donc, reconnaissance des problèmes liés au changement climatique par les autorités locales, établissement d'incitatifs à l'adaptation, diffusion de l'information relative aux variations du climat et leurs effets, et diminution de la dépendance par rapport au marché extérieur. Donc, cette idée de se prendre en main, de réduire la pauvreté aussi, diminution de la dépendance aux ressources naturelles. Et finalement, c'est un petit peu le modèle dans lequel on se retrouve, c'est-à-dire que les... peut-être un peu... de façon compréhensible historiquement, c'est plutôt cette colonne-là qui s'est développée, qu'on a vu exprimer très éloquemment par les collègues qui me précèdent, donc cette idée du passage de l'impact à la réflexion sur l'adaptation, qui débouche par trop souvent sur des approches sectorielles ou des cibles spécifiques, comme par exemple une plante, une semence, qui sont certainement des approches importantes, mais qui ne peuvent pas être évidemment restrictives. L'idée, c'est de passer, de tenter de faire converger l'approche retenue, c'est-à-dire vulnérabilité, adaptation, dans un mainstreaming, c'est-à-dire inclure dans le processus d'élaboration des politiques. Et donc, tout ça renvoie à éventuellement l'évaluation des vulnérabilités, plutôt que simplement